Bonjour à tous. Ce petit enregistrement est un bonus en hommage à la fin de la série Jijibu sur le site de la MedaFansub. En effet, je veux rendre hommage à cette série que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai appris à connaître au fil de l'année qui s'est écoulée. Et je vais donc vous parler de Jijibu dans son ensemble, autant dans son origine de light novel, ainsi que dans son adaptation animée et tout ce qui tourne autour. Et je vous donnerai après mon avis général sur la série au complet. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce que Jijibu à la base? Il s'agit d'un light novel en 9 tomes plus 2 tomes spéciaux, écrit par Shin Araki et illustré par Haruya. Publié du 18 mars 2010 au 16 mars 2012 dans Shogakukan, il s'agit d'un light novel de type comédie scolaire. Nous suivons les histoires des membres du Jijibu, que l'on pourrait traduire par Club Good Job. C'est un club à la base composé de 4 filles qui vont recruter de force le personnage principal de l'histoire, Kyoro. Le light novel est décrit par l'auteur comme un yonkoma en light novel. Pour information, un yonkoma est une histoire en 4 cases. D'autres mangas comme Kaon ou Eight Channel sont aussi tirés de yonkoma. Actuellement, il n'existe pas encore de traduction française officielle pour les romans d'Ijibu. Vous pouvez néanmoins trouver une traduction partielle du light novel sur le site jijibuthetranslation.wordpress.com. Actuellement, la traduction en est au tome 2, chapitre 17, soit à peu près la moitié du deuxième volume. Mais Jijibu a eu le droit également à des suites, à savoir Good Job Chotobu, qui est une histoire qui se passe au collège avec les petites sœurs du héros et des héroïnes, dont on parlera un tout petit peu plus tard, mais également deux petites side stories, à savoir Jijibu Weekly et Jijibu Zero. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe 11 tomes de Jijibu. L'histoire est conclue en 9 tomes, plus deux autres romans spéciaux qui seront également adaptés en animé un peu plus tard. Maintenant, passons à ce que vous avez connu et que vous venez télécharger sur le site, à savoir l'animé. Diffusé du 10 janvier 2013 au 28 mars 2013, et que vous avez suivi chez nous du 12 janvier 2013 au 14 avril, la série compte 12 épisodes, plus un OAV. Réalisé par Fujiwara Yoshiyuki, qui a également réalisé Plastic Memories. Nous retrouvons au chara-design Oshima Miwa, qui a également travaillé sur Bakatotes, C3 ou encore Koi-Hime Musou. L'anime a été réalisé au studio Tobakobo, qui s'est notamment occupé de la série des Koi-Hime Musou, Kenkan Shoujo Nozaki-kun, mais aussi de Imoto Umela-chan, Love Lab, Mikagura Gakuen Kominkyoku, ainsi que la série des Yuru Yuri. À l'époque de la diffusion, trois fansubs se sont occupés de cette série. Vous avez eu la Cast FS, la Shinosub et nous, la MedaFansub. L'équipe principale du projet était Yoshimune et Sorion à la traduction, et un peu plus tard uniquement Sorion en traduction, étant donné que Sorion commençait, Yoshimune l'avait secondé dans ses débuts de traducteur. Vous avez également eu Taka en check adapt, Kazuto au poste de time edit, et moi sur les derniers épisodes comme son ordinateur avait tendance à planter, Mayu et moi en tant que Q-check, et moi-même à l'encodage et l'upload. Maintenant parlons un peu de ce qui est le plus important dans cette série, les personnages. Commençons par le personnage Kyolo, doublé par Shimono Hiro, qui est doublé Akaisa dans Bakatotes, Satoshi dans Corpse Party, bien entendu Keima dans Kaminomi Zoshiru Sekai, Nai dans l'anime Carnival, Connie dans Shingeki no Kyojin, et également Haruka dans Yusuga no Sora. Kyolo est un est le personnage chétif de l'histoire, c'est le personnage qu'on aime torturer, c'est un garçon gentil qui est toujours là quand on lui demande de faire quelque chose, et surtout le souffre-douleur préféré de Mao, qui adore passer son temps à passer ses nerfs sur lui, ou encore à le ridiculiser pour s'amuser. En parlant de Mao, passons à elle. Elle est doublée par Uchida Maya, qui a doublé Rika dans Chunibyo, Lily dans Daimachi, Irina dans High School DxD, Kanetsugu dans Yakar Yoran, Iyoli dans Noragami et Rea dans Sankaria. Il s'agit de la tsundere du groupe. Petite et colérique, elle est la présidente du club Jijibu et est en troisième année de lycée. C'est également la grande sœur de Megumi et Seila. Ensuite, passons à Megumi. Elle est la petite sœur de Mao et la grande sœur également de Sela. C'est l'ange du club, on va dire. C'est la fille qui a toujours un sourire, très bonne en cuisine, qui est toujours là pour nous, qui va vous servir, vous réconforter, vous raconter des histoires, et toujours avec le sourire. Par contre, il y a une chose sur laquelle il ne faut jamais parler devant elle, c'est son poids. Megumi est très complexée par son poids. Elle a beau être dessinée comme une fille de corpulence moyenne, mais elle est très 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 sensible au sujet de son poids. Notamment, je crois, dans l'épisode 8, il me semble, 7 ou 8, où, ah non, c'est dans l'épisode 7, justement, où Mao fait un massage thaïlandais à Kyolo, et elle veut aussi le faire, mais elle écrabouille, étant donné qu'elle fait 50 kilos, alors que Mao en fait une trentaine. Le pauvre Kyolo a failli se faire écrabouiller vivant. Pauvre de lui. Megumi est doublée par Miyamoto Yume, qui a doublé Monami dans Kapeta, Ayami dans Ghost Hunter, ou Ito dans Mushishi. Elle n'a pas fait beaucoup de rôles pour le moment, mais je pense qu'elle a une carrière quand même très prometteuse. Parlons maintenant de Shion, qui est doublée par Mimoli Yosuko, qui a doublé Amelia dans Freezing, Ophi dans DxD, qui a doublé Nanami dans Kamisama Hajime Mashita les deux saisons, Umi dans Love Live, également doublé Sherlock dans la série des Tentai Tageki Mikli Homs, et également Kanae dans Tekyu. Shion est le génie du groupe. C'est une fille toujours très calme, qui a toujours réponse à tout, qui est considérée par un génie par de nombreuses personnes. Elle a également 8 frères qui sont des génies comme elle, dans différents domaines. Elle sait tout, sauf une chose, les choses normales. En effet, Shion manque de sens commun. Pour faire simple, elle sait pratiquement tout, mais les choses simples de la vie, comme par exemple mettre de l'eau chaude pour faire cuire ses ramen, ou par exemple prendre une boisson au distributeur, ce sont des choses sur lesquelles Shion a beaucoup de mal, et dans lesquelles Kyolo va lui apporter des choses afin de lui permettre d'apprendre à comprendre le monde. On peut également adorer ces parties où elle est complètement hystérique, notamment avec ses « impaka » qu'elle nous fait deux fois dans la série et qui sont juste énormes. Nous avons également Kilala, qui est la Neko Girl du groupe, qui est doublée par Arakawa Chika, qui est une ancienne membre du groupe des Otome Shinto, qui s'est occupée de l'opening de Jijibu. J'y reviendrai un tout petit peu après. Elle n'a doublé que Kilala, d'après mes recherches. Après avoir été graduée des groupes des Otome Shinto, elle a décidé de se consacrer à sa carrière d'actrice. Pas plus d'infos pour ce que j'ai pu trouver. Kilala est la Neko Girl du groupe. Elle est également étrangère, viendrait du Canada, d'après ce qu'on sait de sa petite sœur, qui est elle aussi blonde aux yeux bleus, cliché classique pour les Japonais des Occidentaux. Oui, parce qu'on est tous blonds aux yeux bleus. C'est un cliché. Bien entendu, ça vient du fait que lorsque les premiers Européens à être arrivés étaient sûrement des gens des pays nordiques, et donc ce cliché est resté ancré dans la culture japonaise. Kilala est un personnage assez intéressant où elle est là juste pour manger. En effet, Kilala est toujours en train de manger, de la viande notamment, parce que soit du poulet, soit du gigot, enfin n'importe quelle sorte de viande, que vous la verrez toujours en train de grignoter un truc. Elle a également beaucoup de mal à s'exprimer en japonais, d'où le fait qu'elle a tendance à un peu saccader ses paroles, chose qu'on a tenté de retranscrire également dans les sous-titres pour justement marquer ce fait, sachant qu'elle est comme sa sœur, capable de très bien communiquer quand elle est à l'écrit. Un autre personnage est ajouté en milieu de série, à savoir Tamaki, doublé par Uesa Sumire, qui a doublé Ukali dans Shosoku. Quel hasard. Dans Chunibyo, elle a doublé Dekomori, ce que j'ai toujours trouvé étonnant, sachant que dans l'un des épisodes, Tama et Mao se battent. Ça me rappelait chaque fois le combat entre Rika et Dekomori dans Chunibyo. Elle a également doublé Momoka dans Crossange, Nona dans Girls and Panzer, Fubuki dans Konkol, ou encore Anastasia dans The Idol Master Cinderella Girl. Que peut-on dire sur Tamaki ? C'est une fille un peu hautaine, qui est là juste pour bouffer un peu comme Killala, mais qui parle beaucoup. On sait qu'elle est fille de prêtre Shinto, est également capable de pratiquer des exorcismes. Ce pauvre Kyolo en subira les conséquences un jour aussi. Mais autour de ces personnages, nous en avons d'autres qui sont plus secondaires et dont la plupart sont introduits en deuxième partie de série, mais qui sont tout aussi attachants les uns que les autres. Nous allons donc commencer par la chouchou de Kyolo, à savoir Molly-san, qui est doublée par Tsunematsu Ayami, qui a doublé Meiya dans Fate Zero, Marina dans Gundam 00, Rakage dans Suisei no Garantia, Mildo dans Genre Mugen, ou très récemment Yula dans Futari Echi de 2014. Molly-san est la... Oui, désolé, je dis Molly-san parce que c'est toujours comme ça que Kyolo l'appelle, et à force... au bout d'un moment, ça finit par être la seule chose que vous direz. Il s'agit de la servante de la famille Amatsuka, donc de la famille de Mao, Megumi et Seila. C'est une maille très particulière étant donné que c'est sûrement la seule humaine que vous verrez conduire une Harley, à savoir une très grosse moto. Également, nous avons les petites sœurs des personnages principaux. Nous avons donc Kasumi, qui est doublée par Kido Ibuki, qui est doublée Ibuki dans Isuka, Soliko dans Kenzen Robo Daimidaler, Yume dans Pupa, Ibiki dans Rekan, Claire dans Sailor Tsukai no Black Dance, ou encore Renka dans Tokyo ESP. C'est la petite sœur de Kyolo, assez jalouse et probablement atteinte d'un léger brother complexe, étant donné qu'elle a l'air quand même des fois de beaucoup tenir à son frère, qui essaie d'éviter que les filles s'approchent d'elle. Bon, c'est pas comme d'autres personnages d'animé qui sont vraiment très 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 poussés dans ce genre-là, mais bon, des fois, qu'elle pense vraiment. Nous avons ensuite Géraldine, qui est la petite sœur de Killala, qui est doublée par Aoi Kawana, qui est également une ancienne membre des Otome Shinto, tout comme la seiyuu de Killala. D'ailleurs, je crois qu'elles ont une graduation en même temps. Comme Killala, elle est étrangère et elle a beaucoup plus de mal que Killala à s'exprimer en japonais. Elle utilise un tableau blanc pour communiquer et transmettre ses différentes pensées. Nous avons également la benjamine de la famille Amatsuka, à savoir Seila, qui est doublée par Moroshi Sumire, qui a doublé Ichigo dans Aikatsu, Marlène dans le film Final Fantasy VII Advent Children, Misaki dans Kaecho wa Maid-sama, Yo-Yo dans Majoko Shimai no Yo-Yo to Nene, et a également doublé Lumi dans l'anime Yahari. Elle est très protectrice envers ses sœurs, déteste que Kyolo pose la main sur elle, amicalement bien entendu, mais elle ne supporte pas Kyolo. Et elle est ventriloque aussi. Grâce au masque qu'elle a sur le côté de la tête, elle transmet ses malédictions ou pensées maléfiques envers Kyolo, et très peu de personnes peuvent entendre ses pensées. Il semblerait que seuls Kyolo et Mao arrivent à les entendre. Après les personnages, parlons un peu des graphismes. Oshima Miwa a fait un excellent travail d'adaptation des designs originaux des personnages. Le design d'origine est très très proche du manga, peut-être avec un côté un peu moins laqué, on va dire, que sur le dessin d'origine, mais qui respecte quand même les dessins qui avaient été faits par Aluya et colle bien au personnage. On a un dessin simple, mais suffisant pour l'animer. Au niveau des graphismes, c'est pareil, on a peu de décors, on va dire, étant donné que la plupart des actions se passent dans la salle du club. On a des fois quelques plans extérieurs en intro d'épisode ou dans de rares cas pour un peu illustrer l'ambiance. Comme je l'ai dit, des traits simples, mais suffisants pour l'animer, qui lui conviennent et qui lui donnent la beauté qu'il a d'origine. Après, niveau musique, nous sommes plutôt bien servis. En effet, la série compte un opening, Mosokoka Nikki, chanté par les Otome Shinto, le groupe dont faisaient partie les seiyuu de Killala et de Géraldine. Nous avons également 4 endings différents chantés par les différents personnages. Le premier, Tokimeki no Mao, doublé par Mao et Megumi. Balance and Balance, Onto no Watashi, chanté par Shion. Purely Sky, Watashi Dale no Sola, chanté par Killa. Ashila Dasso, chanté par Mao, Megumi, Killala et Shion. Bien entendu, il s'agit, j'ai employé le nom des personnages, mais c'est chanté par leurs CEO respectives. Les OST sont réunis en deux CD différents, J, J, prononciation anglaise de G et J, correspondant aux initiales du club. On a 64 pistes au total, qui reprennent les différents morceaux qu'on entend dans la série, mais également les versions longues des character songs. Vous avez les chansons que j'ai citées précédemment en version longue, et également l'insert song Graduation Color, qui est chanté par Mao. Au niveau de l'ambiance qu'apportent ces OST, elles collent bien, elles ne sont pas forcément ultra mémorables, mais elles suffisent à poser l'ambiance qu'apporte Gigi Woo. Au niveau des pistes que j'ai vraiment aimées, nous avons Kokako, Susume et Taiketsu. Vous avez juste à chercher les OST de Gigi Woo et vous pourrez retrouver les musiques dont je viens de parler. Notamment la dernière, qui est ce que j'appelle le thème d'Oleman. Quand Kyolo devient Kema. Oui, étant donné que chaque fois que cette musique est employée, quand Kyolo passe en mode Oleman, je me suis toujours dit, en fait, Kyolo passe de Kyolo à Kema, étant donné que c'est le même seiyuu, et que il prend un regard à peu près aussi fort que celui qu'a Kema dans Kami no Mi. Bien que les animés ne soient pas réalisés par le même studio. Dans les éditions Blu-ray, nous avons 4 CD drama pour chacune des héroïnes principales. Dépendamment du volume de Blu-ray que vous avez, dépendamment du Blu-ray que vous prenez, vous avez un des différents personnages. Gigi Boo a eu droit également à un OAV comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Gigi Boo Arobaz, qui est sorti le 6 mai 2014 au Japon. C'est un épisode de 46 minutes qui adapte les deux derniers romans spéciaux de Gigi Boo, à savoir Lost Time et Anamalo. Première partie, nous faisons un petit voyage scolaire à New York après la fin de Gigi Boo dans une salle de club qui ressemble trait pour trait au club d'origine. En effet, Kyolo se fait encore une fois enlever par les filles pour l'amener à New York pour leur voyage scolaire. Ce qui est un tout petit peu dommage sur ce passage-là, c'est que on n'a pas vraiment de partie où on les voit visiter New York. Vous avez quelques petits plans comme ça de la ville, mais rien de plus. Cependant, l'opening, qui reste le même, mais dont les animations ne changent pas, les trames de fond, elles changent. Vous avez le droit à Central Park, vous avez le droit à une vue sur la Statue de la Liberté, ainsi que de Times Square. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi-même j'ai pu aller à New York et je peux vous dire que c'est très fidèle aux images d'origine. Ils ont très certainement pris quelques photos là-bas et ensuite ils ont redessiné dessus pour donner cette allure très new-yorkaise. Mais ce n'est pas très très important. Ils sont juste en voyage aux États-Unis et on se concentre encore une fois sur les activités du club. Tous les personnages sont au rendez-vous, que ce soit les petites sœurs ou les membres d'origine du Gigi Boo, qui viennent encore semer la pagaille comme d'habitude. Après, nous avons la deuxième partie de l'OAV qui se passe un peu après le voyage scolaire. Kyolo et Mao se retrouvent, étant donné que lui est maintenant en deuxième ou troisième année, c'est pas très très précis. Et Mao, elle, est arrivée à l'université. Mais quand ils se retrouvent, Mao n'a pas l'air très contente de le revoir. Du coup, les autres filles essaient d'arranger les choses pour justement essayer, entre guillemets, recoller les morceaux, étant donné qu'en fait, Mao est triste d'un côté que le Gigi Boo, que le club, en fait, s'arrête, parce que elle aimait ça et elle veut pas que leur lien qui les unit disparaisse. Mais comme c'est dit en fin de l'OAV et également en fin de série, leurs liens sont éternels. Ce qui fait que même si le Gigi Boo s'arrête, il y aura toujours un autre club Gigi Boo pour qu'ils puissent continuer à se voir et tout. Nous avons le droit à plus ou moins deux endings. Vous avez le droit à une version longue de Ashili Dasu en fin d'épisode. Et ils finissent la série sur une chanson appelée Ilogale Power qui est chantée par toutes les filles, savoir Mao, Megumi, Shion, Kilala, Tamaki et Megumi, pour conclure Dijibu au final. Ceux qui ont suivi la série savent que nous avons mis environ un an à faire cette OAV suite à un manque de staff, des personnes qui étaient pas là quand on avait besoin d'elles et tout ça, et surtout d'absence de personnes pour justement compléter les trucs, et vous avez eu pratiquement l'OAV un an après. Maintenant, que penser de Jijibu après tout ça? Pour moi, cette série marque une grosse évolution au niveau de... Mon avis en fait a beaucoup changé sur cette série entre le moment où j'ai commencé à le faire et maintenant. Je m'explique. En début, c'est-à-dire en 2013, quand nous avons commencé le projet, j'étais pas trop chaud en fait sur ce projet. C'était, ouais, ça va, petit projet comme ça. Et au fur et à mesure des épisodes que j'ai fait, vu et tout ça, j'ai commencé à de plus en plus apprécier la série. Quand j'ai découvert que Jijibu Arobaz allait sortir, j'ai fait plus de recherches sur Jijibu et tout ça, et je me suis beaucoup plus attaché à la série. Elle n'a rien de spécial, on va dire. C'est juste une série, c'est un bête tranche de vie scolaire, parce que c'est des séries comme Jinsei, par exemple, qui, d'ailleurs, a le droit à un petit caméo de la part de Mao dans le premier épisode. En effet, au tout début de l'épisode, pendant que les personnages sont en train de jouer, vous voyez sur la tour de Take une petite Mao qui est posée comme ça. Bien que la série ne soit pas du même studio, on y voit quand même un petit clin d'œil. Je dois dire quand même très sympa pour les fans. La série n'est pas exceptionnelle, elle renouvellera pas le genre, c'est l'histoire, c'est comme j'ai dit, un animé comme Jinsei ou encore Seto Kai no Ichizen, ce sont des animés qui se concentrent sur les activités des clubs et qui cherchent à toujours utiliser des petites situations pour trouver des points d'humour. On regarde Jijibu, que ce soit des histoires autour d'un kotatsu ou encore des parties de Twister, ou même encore les nombreux passages où Kyolo est obligé de se faire travestir en fille à cause des autres. Mais c'est ce qu'on aime en fait, c'est juste les personnages, bien qu'ils soient quand même très stéréotypés, je dois dire, mais c'est ce qui fait que Jijibu est bien. Je sais, ça casse pas trois pattes un canard, vous me direz, c'est pas compliqué, vous prenez une salle, vous mettez des personnes avec un caractère bien différent, vous trouvez des petites situations pour les faire interagir et qui s'amusent, et voilà, c'est la recette. On aime ce que c'est. Jijibu est un animé simple pour un style simple, mais qu'on aime. Il n'y a pas besoin de réfléchir quand on regarde Jijibu. Juste, on est là, on voit les personnages s'animer, faire leur vie et tout ça, et c'est juste ça qu'on aime. Je dirais que pour moi, Kyolo reste quand même le personnage le plus intéressant et quand même celui qui a beaucoup évolué entre le début et la fin de l'histoire. Notamment parce que il devient quand même chef du Jijibu à la toute fin. Parce que Mao a quand même décidé de lui donner son poste. Donc pour conclure, Jijibu est vraiment une série agréable que l'on peut regarder sans jamais s'ennuyer et que je redemande et j'espère qu'un jour la série pourra soit être licenciée en France, même si je pense que c'est peu probable étant donné que c'est pas... ça risque pas d'être vraiment vendu, mais si un jour les light novels sont disponibles en France, c'est certain que je vais les acheter. Parce que franchement, Jijibu vaut vraiment le coup d'œil, ne serait-ce que pour ses personnages. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère avoir rendu hommage à cette série comme il se doit, et j'espère encore que le Jijibu continuera. Merci à tous, et à la prochaine.